Première partie. Enfant malade. Chapitre 1. Avant de s'inventer Maitzer, Maitzer s'appelait Samson Maitzer. Et avant ça, Samson Mazur. Un changement de deux lettres qui le fit passer de gentil petit juif à bâtisseur de monde. Mais pendant une grande partie de sa jeunesse, ce fut seulement Sam, ou S.A.M., comme dans la liste des meilleurs joueurs de Donkey Kong sur la machine de son grand-père. Un après-midi de décembre, au crépuscule du XXe siècle, Sam descendit du métro et, dans le couloir menant à l'escalator, se retrouva coincé au milieu d'une foule médusée, agglutinée devant un panneau publicitaire. Sam était en retard. Il avait rendez-vous avec le directeur des études. Tout le monde s'accordait sur l'absolue nécessité de passer cet entretien avant les vacances d'hiver, mais il l'avait repoussé pendant plus d'un mois. Sam n'aimait ni les foules, ni les bêtises qui les amusaient. Or, cette masse-là, il ne pourrait pas l'éviter. Il lui faudrait jouer des coudes pour réussir à regagner la surface. Sam portait un ample caban en laine bleu marine que son colocataire Marx lui avait offert après l'avoir acheté dans un surplus de la marine, en ville, pendant leur première année. Marx l'avait laissé dans son emballage presque un semestre entier avant que Sam ne lui demande de le lui prêter. L'hiver avait été très rude, et en avril, le vent du nord-est, en avril, dément ses hivers dans le Massachusetts, avait fini par avoir raison de la fierté de Sam. Il avait donc parlé à son coloc du manteau oublié, prétendant le trouver à son goût, et, comme prévu, Marx lui avait répondu qu'il n'avait qu'à le récupérer. Comme la plupart des trucs qui provenaient des surplus militaires, le caban sentait le moisi, la poussière, la transpiration de garçon mort, et Sam ne chercha pas à savoir pourquoi il avait atterri là. D'autant qu'il était bien plus chaud que l'anorak qu'il avait rapporté de Californie en première année. Et puis, cette vareuse était tellement grande qu'elle compensait sa taille plutôt moyenne, croyait Sam. En réalité, le vêtement surdimensionné ne faisait qu'accentuer son allure juvénile, lui donnant un air de petit garçon. Tout ça pour dire qu'à 21 ans, Sam Mazur n'avait pas la carrure nécessaire pour forcer son passage. Et quand il tenta de se frayer un chemin à travers la foule, il eut la sensation d'être le malheureux amphibien du jeu Frogger, essayant désespérément de traverser des routes bondées et une dangereuse rivière pour rejoindre sa maison. Il lâcha une série de « désolé », alors qu'il ne l'était pas du tout. « Le truc génial dans le codage du cerveau, pensa-t-il, c'est qu'on peut affirmer « excusez-moi » tout en se disant « va te faire foutre ». Ce qui n'était pas le cas des actions et paroles des personnages de romans, films ou jeux vidéo qu'il fallait toujours prendre au premier degré, à l'exception de ceux présentés comme des tarés ou des crapules indignes de confiance. Mais les gens « normaux, convenables et plutôt honnêtes » ne passaient pas une journée sans recourir à cet indispensable logiciel qui leur permettait de prononcer quelques mots en pensant, ressentant ou même en faisant le contraire. « Vous pouvez pas faire le tour !» lui cria un type coiffé d'un chapeau en macramé noir et vert. « Désolé. »«
Et merde, j'étais à deux doigts de la voir !»
marmonna une femme avec un bébé en écharpe au moment où Sam passait devant elle. De temps à autre, quelqu'un se détachait de la foule et libérait un peu de place. Sam aurait pu en profiter pour se tirer de là, mais d'autres humains, avides de distraction, le devançaient toujours. Une fois près de l'escalator, il se retourna pour voir ce que la foule regardait. S'il avait parlé de cet attroupement dans le métro à Marx, celui-ci aurait sans doute répondu « Et t'as même pas eu la curiosité de savoir ce que c'était ? Le monde extérieur existe ! Tu pouvais pas mettre ta misanthropie sur pause une seconde ?» Sam n'appréciait pas que Marx le considère comme un misanthrope, même si c'était vrai. Voilà pourquoi il fit demi-tour. Et c'est à ce moment-là qu'il repéra une vieille connaissance, Sadie Green. Ils s'étaient croisés plusieurs fois ces dernières années, tous deux habitués des tournois et cérémonies pour les surdoués de la région. Foire aux sciences, jeux et salons de recrutement universitaire, compétitions, concours d'éloquence, de robotique, ateliers d'écriture, de programmation, banquets réservés aux meilleurs étudiants. Car à Los Angeles, qu'on sorte d'un lycée médiocre de l'Est, comme Sam, ou d'une école privée chic de l'Ouest, comme c'est dit, les gamins brillants suivaient le même parcours. Dans la salle pleine de geeks, Sadie et lui s'échangeaient des regards. Elle lui décochait même parfois quelques sourires, comme pour confirmer la trêve qu'ils avaient entérinée. Et Sadie finissait avalée par son escorte de beaux petits surdoués. Autrement dit, des garçons et des filles dans son genre, mais en plus riches, plus blancs, avec de meilleures lunettes et des dents plus saines. Ça ne le tentait pas d'être le vilain geek de plus à tourner autour de Sadie. Il lui arrivait de l'imaginer en méchante, de lui prêter de mauvaises intentions à son égard. Cette fois, Elle l'avait fui, ou cet autre, elle s'était détournée de lui. Pourtant, jamais elle ne s'était comportée comme ça, si seulement il en avait été autrement. On lui avait dit qu'elle avait intégré le MIT, et quand il avait été reçu à Harvard, il s'était demandé s'il tomberait sur elle. Pendant 2 ans et demi, Sam n'avait jamais tenté de forcer le destin. Elle non plus. Mais voilà qu'elle était là, Sadie Green, en chair et en os. Et la voir lui donnait presque envie de pleurer. Un peu comme si la démonstration mathématique qui lui avait échappé pendant des années s'était soudain révélée sous un angle nouveau, avec sa solution évidente. « Voici Sadie », pensa-t-il. « Oui ?» Il allait l'appeler, mais se ravisa, bouleversé en songeant à tout le temps qui s'était écoulé depuis leur dernière rencontre en tête-à-tête. Comment pouvait-elle être encore aussi jeune après tant d'années ? Et pourquoi avait-il oublié si vite à quel point il la détestait ? Le temps, se dit Sam, était un mystère. Non, à bien y réfléchir, le temps avait une explication mathématique. Cependant, le cœur, cette partie du cerveau que représentait le cœur, restait impénétrable. Après avoir regardé ce qui attirait la foule, Sadie s'acheminait désormais vers la ligne rouge du métro en approche. Sam cria son nom. « Sadie !» Le grondement de la rame se joignit à l'habituel brouhaha de la station. Une adolescente jouait au violoncelle un air du Penguin Café Orchestra dans l'espoir de récolter quelques pièces. Un homme muni d'un porte-bloc demandait aux passants d'accorder un instant aux réfugiés musulmans de Srebrenica. Près de Sadie, il y avait un stand de smoothie à 6 $ le verre. Au moment où Sam avait crié son nom, le mixeur avait commencé à vrombir et à exhaler des arômes d'agrumes et de fraises qui parfumaient l'air moisi du sous-sol. « Sadie Green !» hurla-t-il à nouveau. Elle ne l'entendait toujours pas. Il accéléra le plus possible. Chaque fois qu'il essayait de marcher vite, Sam avait l'impression paradoxale d'avoir la jambe attachée à celle d'un autre, comme dans ces courses à 3 pattes qu'on organise dans les kermesses pour les enfants. « Sadie ! Sadie ! » Il se sentit bête. « Sadie Miranda Green ! Tu es morte de dysenterie !» Elle se retourna enfin et scruta la foule. Lorsqu'elle le repéra, un sourire s'épanouit lentement sur son visage, comme dans la vidéo de l'éclosion d'une rose qu'on lui avait passée au ralenti dans un cours de physique. C'était beau, pensa-t-il. Mais il s'inquiéta. Ça faisait peut-être un tantinet forcé. Elle se dirigea vers lui, en souriant toujours, avec sa fossette sur la joue droite, ses dents du bonheur. Et la foule sembla s'écarter pour la laisser passer, ce qui ne lui était jamais arrivé à lui. « C'est ma sœur qui a succombé à la dysenterie, Sam Mazur, » lui dit-elle. « Moi, je suis morte d'épuisement suite à une morsure de serpent. »«
Et parce que tu avais refusé de tirer sur des bisons ?» ajouta-t-il.
« C'était du gâchis, toute cette viande qui allait pourrir. »
Sadie le serra dans ses bras.
« Sam Mazur, j'espérais te croiser. »«
Je suis dans l'annuaire, » rétorqua-t-il.
« Eh bien, peut-être espérais-je que ça se ferait naturellement.
Et voilà !»«
Qu'est-ce qui t'amène à Harvard Square ?»«
L'œil magique, bien sûr !»
lui répondit-elle sur le ton de la plaisanterie. Elle pointa du doigt un panneau publicitaire. Pour la première fois, Sam repéra l'affiche 100 sur 150 cm qui avait transformé les usagers du métro en hordes de zombies. « Voyez le monde sous un jour totalement nouveau. Pour Noël, tout le monde s'arrache l'œil magique. » Un dessin psychédélique dans des tons festifs émeraudes, rubis et dorés illustrait le slogan. Il cachait une image en 3D. Il s'agissait d'un auto-stéréogramme, facile à faire pour un programmeur un peu doué.
« Ça ?» se dit Sam en grognant. « Il en faut peu pour amuser les gens. »«
Tu désapprouves ?»«
On en trouve dans n'importe quelle chambre du campus. »«
Pas celui-là, Sam. Il est spécifique à... »«
À n'importe quelle station de métro de Boston. »«
Et même des États-Unis ?» s'esclaffa Sadie. Alors, Sam, tu n'as pas envie de percevoir le monde avec des yeux magiques ?»«
Je le vois toujours ainsi. J'incarne l'émerveillement enfantin. »«
Regarde comme il a l'air heureux !» dit Sadie en désignant un garçon d'environ 6 ans. « Il l'a trouvé ! Bravo !»«
Et toi, tu l'as vu ?» demanda Sam.
« Pas encore, » reconnut-elle. « Et maintenant, il faut vraiment que je prenne le prochain métro, sinon je vais arriver en retard en cours. »
« Il te reste bien 5 minutes pour essayer de percevoir le monde avec des yeux magiques, » dit Sam.
« Une autre fois, peut-être. »«
Allez, Sadie, le cours ne va pas s'envoler. Ça t'arrive souvent d'examiner un truc en sachant que tout le monde le voit comme toi, ou du moins que leur cerveau et leurs yeux obéissent au même phénomène ?»